Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Pas mal de monde autour de la table. Étienne, Jean-Baptiste, Antoine, Frédéric, bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Vous me venez nous présenter le projet Terra. C'est une association qui propose notamment la création d'un éco-village. Qui veut bien commencer pour nous détailler un peu tout cela? Je vais essayer le prénom au moment où c'est dit.
Comme vous voulez.
Jean-Baptiste.
C'est parti. Bon, alors le projet Terra, c'est un grand projet de long terme. Et l'objectif, c'est de créer un éco-village, au moins un, d'ici 3 ans. Et dans l'immédiat, c'est de faire des tours de France pour recueillir tout plein de bonnes idées. Donc on fait des tours de France à vélo pendant 3 ans. Donc là, c'est la première année. On est à peu près aux 2/3 de notre parcours. On arrive sur la fin. Donc c'est de réfléchir tous ensemble sur, avec deux questions phares qui sont... dans quel village on aimerait finir sa vie et dans quel village on aimerait voir naître nos enfants. Donc ça, c'est un peu les deux phrases d'accroche qui permettent de réfléchir à notre sujet de prédilection, du coup. Et c'est vraiment de réfléchir un peu à tous les niveaux et essayer de mélanger les idées entre elles pour pouvoir quelle synergie on peut générer avec tout ce qui se fait aujourd'hui et qui sont assez sous-exploités parce qu'on bosse un peu chacun dans notre coin ou c'est pas pensé de façon connectée, systémique et voilà.
Alors peut-être qu'on peut expliquer pour quelques auditeurs qui ne savent pas encore qu'est-ce qu'un éco-village, Frédéric.
Alors un éco-village, c'est un éco-lieu dans lequel on va relocaliser à 85% la production vitale à ses habitants, où on va abaisser l'empreinte écologique de cette production à moins d'une planète. Et on va valoriser cette production sous forme de monnaie citoyenne locale qu'on va redistribuer sous forme de revenu inconditionnel, qu'on appelle un revenu d'autonomie à tous les habitants, de telle façon à ce qu'ils puissent se procurer les produits qu'on va fabriquer dans cet éco-village. Et ensuite, à eux de choisir, à partir de ce revenu d'autonomie, s'ils veulent avoir une activité marchande ou non. Et donc l'idée, c'est de substituer l'activité choisie à l'activité subie, telle qu'elle est aujourd'hui dans notre système économique, et donner aux habitants de Terra la possibilité d'expérimenter le chemin de leur propre bonheur, dans le respect des humains et de la nature.
Comment commence-t-on un éco-village dans ce monde marchand horrible et pas du tout écologique?
Donc ça, c'était la définition de l'éco-village de la part de Terra.
Ah, très bien.
Pas forcément la définition commune de tous. Voilà.
Mais donc, pour répondre à la question...
Pour répondre
Antoine.
À ta question, donc, l'idée, ça va être de fusionner une coopérative intégrale avec une commune de France qui se meurt au niveau démographique, au niveau économique. On a entendu parler du concept de SKIC aussi, qui peut être très intéressant. Donc le fait de fusionner avec cette commune va nous donner la possibilité, on l'espère en tout cas, de proposer le modèle Terra, entre guillemets, avec l'instauration d'une constitution d'assemblée citoyenne qu'on est en train de rédiger à travers des assemblées constituantes, un peu à la manière des ateliers d'Étienne Chouard. On se présente donc dans plusieurs villes de France, on organise ces séminaires-là. Bah, on apprend à être citoyen. On ne nous a jamais vraiment enseigné cette démarche-là et elle est assez simple. Elle consiste à faire des groupes de travaux autour de tables et on se donne des thèmes. Donc on a 6 thèmes principaux, 6 axes de réflexion qui découlent de réflexions qui avaient soutenu au départ le mouvement des colibris. Je peux vous les dire rapidement. Donc on a redessiné la démocratie à travers des principes de consensus, consentement, sinon 2/3 des voix dans le pire des cas. On a une réflexion au niveau du buen vivir, ce qu'on observe en Amérique latine. Donc ça, c'est l'axe de recherche bien-être et vivre ensemble. Il y a une réflexion au niveau de l'habitat durable, au niveau de la production locale, donc produire localement le nécessaire. Une réflexion aussi sur la mutualisation des ressources de tout ordre, ressources de tout ordre, de l'information également. Donc on réfléchit à un design permaculturel qui permettrait de favoriser ces échanges-là et à des plateformes techniques, ça Jean-Baptiste pourra vous en parler, et Étienne, sur des plateformes web qui permettraient de faciliter ça. Il y a la T-Constitution, par exemple, où chaque citoyen peut participer la votation de certaines propositions qui sont faites, un forum constitutionnel, si on veut résumer rapidement. Et l'axe donc principal dont parlait Frédéric, c'est le choisir son activité à travers un revenu de base pour donner la possibilité aux gens de choisir une activité marchande ou non. Pour l'instant, l'idéal, ça serait d'arriver à proposer à partir de la production un revenu de 814 euros, soit 1 euro de plus que le seuil de pauvreté, et permettre donc aux gens de remplir le nécessaire avec ça.
Pour revenir un tout petit peu en avant, j'ai entendu SCIC coopérative, c'est-à-dire que la SCIC ou la coopérative, en tout cas, devient propriétaire au sens légal du terme, comme ça peut se passer en France, de la commune et de ce qui s'y trouve.
En fait, l'idée, c'est de fusionner en fait une commune avec une coopérative intégrale, c'est-à-dire qu'en fait la commune va fournir un terrain en fait, ce qui sera sous la forme d'un bail emphytéotique sur 99 ans. Et sur ce terrain, en fait, on va créer des habitats qui appartiendront à une coopérative d'habitat. Et tous les citoyens qui voudront habiter Terra donc, seront possesseurs de parts à l'intérieur de cette coopérative d'habitat, sachant que c'est la coopérative d'habitat qui restera propriétaire des habitations. Et quand une personne voudra partir, bien elle recédera ses parts au collectif et une autre personne pourra revenir habiter à la maison que la personne quittera.
Y a-t-il donc une limite d'habitation et d'habitants ?
Alors, au niveau du design et de l'architecture, l'idée, c'est de partir sur des éco-hameaux d'une trentaine d'habitants pour faciliter la prise de décision au consensus, justement. Et c'est un peu la base du socialisme avec les Narodniki en Russie, qui consistait à fédérer des entités le plus autonomes possible et d'étendre ce modèle. Donc on aurait un éco-village composé d'une dizaine de ces éco-hameaux, ce qui représenterait à peu près 300 habitants, et on pourrait étendre cette population à 1800 pour faciliter les savoir-faire, les compétences, et arriver à un site de 1800 habitants. Tout ça venant se dérouler donc autour d'une ancienne commune qui serait réhabilitée, elle, et qui permettrait de faire une sorte de pôle culturel avec certaines activités communes, une réflexion au niveau des bâtiments, au niveau de la rénovation, et une partie construction donc avec des modules. Pour l'instant, un module qui a été proposé en spirale qui facilite la partie modularité d'une architecture en ossature bois avec la possibilité d'être entièrement démontable pour respecter la terre, entre autres, et pouvoir permettre plus de flexibilité.
Oui, on pense notamment à je ne sais plus dans quel pays, ça se fait beaucoup de déplacer même les cloisons suivant quand la famille s'agrandit ou reste
ici. Exactement, ouais.
Ah, c'est ça. Étienne, je te voyais osciller comme ça. Est-ce que tu veux nous parler des trucs plus internet, plus web ?
Non, bah, moi je laisse parler parce que déjà, je suis assez récent sur le projet. Je suis arrivé dans le projet il y a 2 semaines.
Alors bah, tiens, dis-nous pourquoi tu es arrivé sur ce projet ?
Bah, moi j'ai découvert ce projet sur internet. Moi je viens de région parisienne, de Melun. Et c'est en voyant une interview de Frédéric Bosquet, de Étienne Chouard. Pour ceux qui connaissent Étienne Chouard, c'est celui qui défend beaucoup, met en avant vraiment l'intérêt de la Constitution et qui défend ses valeurs et qui incite les citoyens à s'y intéresser. Et en voyant cette interview, je me suis dit, tiens, ça c'est un projet qui me semble très intéressant. Et je n'ai pas hésité donc à faire le voyage de Melun à Toulouse pour rejoindre le projet Terra. Et depuis, je suis l'équipe sur la route.
Donc, vous avez choisi la commune, puisqu'on en parle depuis le début ?
Non, on n'a pas choisi la commune. Du coup, on se laisse 3 ans pour s'établir quelque part. Donc on choisira une commune, notamment sur les critères du fait que ce soit la plus à même à avoir les bons éléments qui nous permettent de s'implanter dans les meilleures conditions, on va dire. Et sachant qu'on va justement choisir une commune qui est un peu en déperdition économique, qui a pas mal de soucis et qui souhaite tenter l'expérience, parce que Terrasse, c'est une expérience, c'est un laboratoire à le ciel ouvert, parce que l'idée aussi, c'est de se faire suivre par un collège de scientifiques pour s'assurer qu'on est bien OK par rapport aux principes qu'on a voulu suivre. Voilà, l'idée, c'est vraiment de redynamiser le territoire par cette expérience. Donc forcément, on va essayer de partir sur un endroit où ça semble compromis historiquement, quoi, en fait. Et voir si on peut régénérer d'avis une société où il fait bon vivre.
Et malheureusement, il y a beaucoup de communes en France qui sont en train de mourir à petit feu.
Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire. D'où l'intérêt de ce Tour de France. Mais alors, oui, vous allez avoir envie de vous arrêter partout, quoi.
Ah, c'est pas ce qui manque, ouais. Il y a des super régions partout. C'est vrai que c'est super riche.
C'est pour ça que la communauté de valeurs qu'on est en train de construire autour du projet, qui grandit tous les jours, aura pour fonction non seulement de valider la constitution de la commune, mais en plus validera aussi le lieu et validera aussi la commune avec laquelle on fera ce partenariat.
Parlez-moi un peu de ce Tour de France en vélo. Pendant ce Tour de France, bon, on a entendu, vous faites des séminaires, vous informez les gens que vous croisez. Qu'est-ce que vous faites d'autre ?
On fait beaucoup de récupération d'invendus, ce qui permet un peu de donner la possibilité aux petits commerces de participer à ce projet-là. Donc on les sollicite en leur parlant du projet rapidement et en essayant de voir si de leur côté il est possible de nous aider au niveau alimentaire en nous faisant partager les produits locaux et en nous parlant un peu du pays dans lequel ils sont, dans lequel ils habitent, entre autres. Et par rapport aux assemblées constituantes dont on parlait, en amont, il y a un ciné-débat qui est organisé et on projette un film qui s'appelle Un revenu pour la vie de Michael Lesos, qui a travaillé pendant plusieurs années pour la mise en forme de ce documentaire qui aborde le revenu de base. Et le revenu de base, c'est une notion qui est en train d'émerger un peu dans tous les partis politiques. Enfin, il y a une récupération qui est en train de se faire. Mais c'est un concept qui commence à être à rentrer dans la tête des gens. Et ça va permettre énormément de choses s'il est bien appliqué en même temps. Parce qu'il peut être assez dangereux aussi. On pourra en revenir peut-être plus en profondeur.
Parler, ouais.
Mais un des changements fondamentaux qui représenterait ce revenu de base, c'est qu'il permettrait de sortir du paradigme de « il faut travailler, celui qui travaille a le droit de manger finalement ». C'est un peu là-dessus qu'on a construit...
Celui qui ne travaille pas ne mange pas, quoi.
Voilà, c'est là-dessus qu'on a fondé notre société.
Revenu de base qu'il ne faut pas confondre avec revenu identique pour tout le monde, en fait.
Oui, absolument.
C'est vrai, ouais, parce que c'est, y en a qui flippent un peu. Alors, bah, on continue à l'expliquer, ce revenu de base, s'il vous plaît. Sur quel principe est-il fondé ?
Alors, il y a cinq principes qui assoient le revenu de base inconditionnel. Le premier, c'est qu'il est justement inconditionnel. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'obtenir. Il est gagé sur la production collective de la nation. Et donc, à partir du moment où la nation collectivement est capable de produire suffisamment pour chacun, chacun reçoit une part de cette production sous forme de monnaie qui lui permettra ensuite d'accéder à cette production. Il est individuel, c'est-à-dire que c'est une personne physique qui le touche. Ce n'est pas donné à un foyer, comme par exemple aujourd'hui pour la plupart des allocations qui sont redistribuées. Il est inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous le prendre. Si on vous le verse, vous le recevrez de votre naissance à votre mort. Et même si vous avez beaucoup de dettes ou que si vous êtes en prison, vous aurez toujours ce revenu de base qui vous permettra, à n'importe quel moment, de sortir du seuil de pauvreté. Il est versé de la naissance à la mort, y compris les enfants, de la première inspiration jusqu'au dernier souffle. Et il est cumulable avec n'importe quelle autre activité, c'est-à-dire que si vous travaillez, eh bien vous toucherez votre revenu de base en plus de votre revenu de travail, sachant qu'il y aura un prélèvement d'environ 23% qui correspond à la fusion d'un certain nombre de cotisations existantes aujourd'hui, ce qui fait que lorsque votre revenu dépassera 3000 euros, on vous l'aura quasiment repris, votre revenu de base, sous forme d'impôt. Donc par contre, en dessous de 3000 euros, vous toucherez un peu plus que ce que vous touchez habituellement grâce au revenu de base.
C'est bien beau, mais pourquoi ça n'a jamais été mis en place ?
Alors le revenu de base inconditionnel, il a été expérimenté dans plusieurs pays dans le monde, en particulier dans des pays comme en Namibie, dans un petit village qui s'appelle Odjivero. On l'a testé pendant un an en donnant 30 euros par mois à des personnes qui étaient vraiment très très démunies. Et finalement, en un an, on a vu que ce revenu de base avait sorti les gens de la pauvreté, avait redémarré un cycle économique et fait baisser les grandes, on va dire, maux des pays pauvres, baisse de l'alcoolémie, augmentation de la scolarisation des enfants, accroissement donc des activités à la fois culturelles et économiques. Il a aussi été testé en Inde et le même effet dans des petits villages. Et il y a eu un grand développement aussi de ces petits villages grâce au revenu de base inconditionnel. Pourquoi il n'a pas encore été mis en place dans des régions comme l'Occident et en particulier la France.
Voire
l'Europe.
À l'échelle d'un pays.
Oui, à l'échelle d'un pays, parce que tout simplement, ça remet en cause le principe même sur lequel repose notre société, c'est-à-dire la rareté de l'argent et la rareté de la monnaie, et dans laquelle le travail marchand, en fait, c'est-à-dire le fait de produire un bien et de le vendre sur un marché contre la monnaie, est ce qui permet la cohésion sociale. Et donc là, l'idée, c'est de dire non, aujourd'hui, on est capable de produire suffisamment, le travail marchand n'est plus obligatoirement ce qui va faire cohésion sociale dans une société, mais il va rentrer parmi d'autres activités qui, elles aussi, produisent de la richesse, mais pas forcément monétaire. Et l'idée, c'est de passer justement d'une société où seule la production de biens vendus en monnaie sur un marché permet la cohésion sociale, à une société où n'importe quelle activité, y compris des activités qui ne produisent pas forcément de monnaie, seront à la même place que les revenus marchands.
Et puis après, il y a cette affreuse notion de mérite aussi.
La méritocratie.
Ouais, la méritocratie, on est complètement dedans. Donc, compétitivité, pro-production et mérite.
Aujourd'hui, on est dans une société effectivement où on prône la méritocratie. Donc on peut déjà faire le constat qu'en fait, il y a certaines personnes qui gagnent énormément et ce n'est pas du tout une question de mérite. On ne va pas trop citer de nom ni de secteur d'activité.
Mais c'est bien de le rappeler.
C'est bien de le rappeler. Et je crois effectivement qu'il est question aujourd'hui de passer d'une société qui se base sur le mérite à une société qui est fondée sur la contribution. Il y a ces termes d'économie de la contribution, économie du partage, économie du don, oui aussi. Il y a un philosophe qui en parle très bien qui s'appelle Bernard Ziegler, c'est ça ?
Stiegler.
Donc, Stiegler, qui parle beaucoup d'économie contributive et c'est tout. Aussi toutes des notions qu'on brasse beaucoup. Moi, je fais partie des gens qui explorent beaucoup l'univers du logiciel libre et la philosophie qui sous-tend. C'est d'autres façons de produire, de penser, de décider. Et du coup, au final, c'est de faire société, quoi.
Tiens, c'est un bon exemple, ça, le logiciel libre, justement. On décrit un petit peu la philosophie du truc, parce que ça, tout le monde y a à peu près touché, je crois, aujourd'hui.
Ouais,
au moins une fois, un logiciel libre. Au moins Mozilla, quoi.
Voilà, Mozilla, VLC, Audacity... GIMP, après Wikipédia, on pourrait dire. Voilà, il y a beaucoup d'Internet, beaucoup d'informatique qui est fait avec des logiciels libres. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils en utilisent à longueur de journée. Et donc, c'est des logiciels où le code source est libre, est disponible pour tout le monde, libre de droit. Donc, ça a énormément de vertus en termes de liberté individuelle ou collective. Donc, ça, c'est un premier point qui n'est pas anodin. Ça a aussi énormément de vertus en termes de développement. C'est un peu le synonyme du développement durable de l'informatique, le logiciel libre. Donc c'est un peu...
tout le monde peut contribuer, tout le monde peut
exactement, et
améliorer.
Du coup, ça donne un développement technique beaucoup plus sain, stable, qui perdure, avec beaucoup moins de bugs. Et du coup, il frustre beaucoup moins. Quoi. C'est des questions de compatibilité, de trucs à longueur de journée. Une notion d'efficience aussi, à l'instar d'un monde qui est énormément pernicieux et des perditions d'énergie, c'est pas optimisé du tout. Quoi. Et puis après, il y a cette notion de partage, d'économie contributive, où là, les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes et créent un pot commun, mettent au pot commun, créent un bien commun qui ne fait que s'amplifier. Et on n'est plus du tout dans des rapports de compétition, où là, justement, dans notre société aujourd'hui, on a des tonnes de déperditions d'énergie, on s'épuise à lutter contre l'autre, alors qu'on pourrait faire société tout autrement et c'est mille fois plus productif. On pourrait vivre mille fois mieux avec des rapports plus sains, etc. Quoi.
Cette notion de partage en fait, qu'on entend à la fois dans le projet Terra, à la fois dans les notions d'éco-village, de revenus de base, et puis là dans le logiciel libre, c'est quand même quelque chose qui est encore très complexe à faire entendre. L'exclusivité d'avoir produit, ne serait-ce par exemple son titre de musique, et de vouloir toucher des droits dessus, pour parler de quelque chose qui nous touche à la radio, c'est encore quelque chose contre lequel il faut presque se battre. Quelle technique utilisez-vous pour faire changer les mentalités?
On pourrait peut-être citer Proudhon, avec c'est Proudhon qui disait que la propriété, c'est du vol. On entendait parler hier, c'est intéressant de voir que le brevet, enfin, il faut prendre conscience que le brevet, et là, on s'en rend bien compte, on est en train de, on a des groupes comme Monsanto qui arrivent à breveter le vivant. Le brevet, c'est un acte de barbare. Hein. Pour sortir de ça, il faudrait en fait qu'on nous réapprenne le darwinisme. Ça, tu pourras peut-être m'aider dans mon développement là. Mais le darwinisme, ce qui a permis à certaines espèces d'évoluer, de rester en vie, c'est la coopération.
Certaines espèces, hein, tu précises, parce que j'ai pas entendu souvent parler dans son histoire, en tout cas, que l'humanité avait coopéré, hein, avec les autres espèces en tout cas, et ne serait-ce même qu'avec son environnement. Et pardon de te couper. Hein.
Non, d'accord. Alors, certaines espèces, c'est la coopération qui leur a permis de tenir. Mais pour en revenir à la manière dont on enseigne aux gens, en fait, l'éducation est énormément responsable. Donc, ça, dans les six thèmes qu'on donnait tout à l'heure, l'éducation, qui semble être un des fondements de base, il est dans ces six domaines-là. Et on a une réflexion aussi énormément sur la non-école, sur les systèmes d'éducation Steiner ou sur les écoles Montessori qui sont dans une logique différente, quoi, qui amène à des nouvelles pistes de réflexion.
Un exemple concret de ça, c'est dans les écoles classiques, quand un prof voit un élève copier sur son voisin, c'est mal. Alors que dans certaines écoles de pédagogie nouvelle, ça s'appelle de la coopération.
Ça, c'est de la coopération.
Et l'éducation sera un facteur fondamental aussi sur terrain, parce que, bien sûr, il sera important que les enfants, dès leur plus jeune âge, apprennent les grands principes de la vie, qui sont la coopération, la synergie, qu'ils apprennent à planter une tomate et à l'avoir poussée, qu'ils apprennent à construire une maison, à produire de l'énergie, à régler un conflit, à savoir faire la différence entre penser, sentir, réagir. Et c'est vrai que si aujourd'hui, plutôt que de bombarder les élèves de mathématiques et de sciences premières, on leur enseignait à entre guillemets, à s'aimer les uns les autres, à aimer la nature et à coopérer, ben forcément, on aurait d'autres types d'êtres humains à la sortie. Et ça, c'est un des paris de Terra, c'est de dire qu'à partir du moment où tous les êtres humains d'un village auront de quoi se nourrir, se loger, se vêtir, s'informer, être en bonne santé, bien, ils arriveront à leur majorité avec un regard sur le monde qui sera beaucoup moins un regard de peur et d'angoisse, et plutôt un regard d'entraide et de coopération.
Et le partage marchera alors ?
Ben, on va essayer.
Jean-Baptiste, tu voulais rajouter quelque chose ?
Pour tenter toujours de répondre à la question, c'est une question très large, mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a vraiment les deux mondes qui existent. Aujourd'hui, on focalise sur un seul, donc c'est des questions de changement de paradigme, tout ça. On dit souvent que l'homme est égoïste, on peut rien y faire. Et aujourd'hui, t'as un gars qui s'appelle Rifkin, notamment, qui dit, attendez les amis, moi j'en connais un autre, de moteur de l'homme, pas seulement l'égoïsme, je ne sais même pas si c'en est un véritablement, mais en tout cas la créativité, l'intelligence, l'empathie, tout ça, c'est des autres moteurs. Notre société aujourd'hui, c'est un peu comme un aspirateur qu'on aurait conçu parce qu'on pensait que l'homme il est égoïste et puis que le seul moteur c'est l'égoïsme, et on a fait un petit peu l'aspirateur qui va pour et puis qui se branche à la prise de l'égoïsme, alors qu'il y a des prises à côté qui s'appellent l'empathie, justement, la curiosité, voilà, et on pourrait très bien se brancher là-dessus. Il y a un petit peu un équilibre déjà à restaurer, et puis peut-être qu'en fait c'est même pas un équilibre, c'est encore aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on baigne véritablement dans la compétition, on baigne tellement depuis qu'on est petit qu'on la voit même plus, quoi. Et rien que le fait qu'on ne connaisse même pas de jeux coopératifs, des jeux de société, on connaît que des jeux de compétition. Pour moi, c'est révélateur d'un gros problème. Que tout est fait aujourd'hui de façon compétitive. La monnaie, c'est très compétitif. Enfin, ça implémente la compétition outrance. Et qu'en fait, c'est une règle du jeu, la monnaie. Donc, c'est un peu essayer de repartir à la conquête des cerveaux. Donc, c'est des méthodes de hacker, quoi. Hacker les façons de penser, moi j'utilise beaucoup ça. Et qu'on est dans des pièges collectifs, notamment au niveau monétaire, mais pas que, au niveau de nos langages, nos modes de pensée, mais au niveau monétaire notamment, c'est le fait que c'est la règle du jeu de la société qui va déterminer nos comportements, quoi. C'est comme si je vous donnais un jeu de société, je vous dis du jour au lendemain, on va jouer au Monopoly, les gars, vous êtes d'accord ? Alors si on connaît que le Monopoly dans la vie et puis qu'on n'a pas trop réfléchi, on va dire ok. Par contre, si on connaît un autre jeu qui est mille fois mieux et puis qu'on sait qu'on s'amuse super bien avec, alors que le Monopoly, on se fait chier comme des rats morts, à ce moment-là, si tu as cette connaissance de la règle du jeu, qu'il y a d'autres règles qui existent, tu vas me dire, non, Jean-Baptiste, moi le Monopoly ça me fait chier, moi je préfère jouer à ce jeu-là, et puis je suis sûr que lui aussi veulent bien, parce qu'eux aussi éventuellement ils connaissent d'autres types de règles, mais c'est un peu la monoculture de la règle aujourd'hui qui fait qu'on a que ça à tester, ça à jouer, et finalement voilà, on s'amuse pas vraiment, quoi. Mais on sait même pas qu'on s'amuse pas ou bien, on joue à ce jeu-là et on l'a même pas conscientisé, quoi.
Ah, puis ça me permet de rajouter que dans la plupart des jeux dont on pense là, des jeux de société compétitifs, en plus on rajoute le dé, ça fait une petite part de hasard auquel on est habitué depuis l'enfance, c'est parfait.
Mmh. Ça donne du piment, le hasard.
Oui, c'est ça.
Tout ça, c'est
oui, tirage au sort. Au cas où, on sait jamais, la bonne étoile. Vous vous rassemblez donc, là vous êtes quatre à vous présenter devant nous, ici, devant les auditeurs. Combien vous êtes dans le projet Terra? Combien vous êtes même sur vélo, tiens?
En vélo, on est deux à faire les choses vraiment sérieusement.
Ah, ah, c'est deux cyclistes. Pourtant, Frédéric, t'es venu avec ton habit de vélo.
Ouais.
Comment dit-on?
Ah oui, ouais, je l'ai pas enlevé là. On est arrivé tout à l'heure et je n'ai pas eu le temps de l'enlever.
C'est un tour à géométrie variable en fait.
Il y en a deux dans un van qui nous accompagne, qui nous précède, qui permet d'organiser les étapes. Ça nous a permis d'aller à Saillan cet après-midi. De temps en temps, quand il y a des choses qui se passent autour, on est ravis de l'utiliser. Puis ça nous permet un peu de communiquer sur le support du van. Ce qui a suivi les combis là, de Volkswagen, donc il y a toute une image associée un peu à ces... On aime bien se définir comme des babas fermes.
Oui, c'est ça. Il y a les un baba... côté hippie avec,
ouais,
le
mais, mais avec un petit côté aussi un peu... Enfin, il y a des choses qu'il faut...
Oui, à ferme, rude.
Les babas fermes, ouais, mais dans le sens guerrier, mais sympa, quoi. Enfin, il y a un truc là-dedans. Et du coup, sinon, on a des amis qui nous rejoignent et qui font des périples avec nous, des bouts de trajet, des petits bouts. Je pense à Marie-Hélène là, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui travaille à l'INRA.
Elle n'est pas morte. Hein.
Dès qu'elle a des vacances, elle prend le vélo et elle vient nous rejoindre. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de soutien, entre autres.
Et sinon, on est parti le 14 juillet de Paris et on a fait presque 4000 km. Là, on doit être à 3800. Et on arrivera du côté de Chambéry, à Arvillard, le 27 octobre. 27 octobre, qui est un jour important. Enfin, on arrivera le 25 pour faire 3 jours. Le dernier jour du tour sera le 27 octobre, qui est la date à laquelle on a ratifié le préambule de la Constitution de la République française pour en faire une République sociale.
Ah et oui,
c'est,
tiens.
Oui.
Révisez donc vos cours d'histoire.
oui, la République française est une République laïque et sociale.
Donc là, on monte sur Saint-Étienne, Lyon... Chambéry, Grenoble, voilà, ça c'est un peu les quatre étapes clés qui nous restent.
On passera au Thiocan aussi, voilà, en Suisse.
Près de Genève.
Près de Genève.
Donc ceux qui veulent nous suivre, venir voir un ciné-débat ou un atelier constituant. Il y a encore beaucoup de créneaux.
Vous les avez choisis avec une idée derrière la tête, toutes ces étapes?
En fait, on s'appuie sur des collectifs qui nous soutiennent, en fait, qui sont des collectifs avec lesquels on a beaucoup travaillé pendant des années, qui sont le mouvement des Colibris, le mouvement français pour en revue une base. On y retrouve les Incredibles Comestibles, nos amis de Roosevelt, les
Gentivirus.
Les Gentivirus d'Étienne Chouard. Et en fait, chacun d'entre eux, lorsqu'on a lancé le projet du Tour, se sont proposés d'organiser une assemblée constituante ou un ciné-débat dans leur ville. Et donc pour nous, c'est très important de travailler avec justement ceux qui à la base ont des initiatives citoyennes formidables.
D'ici 3 ans, donc, a priori, vous allez expérimenter le premier éco-village Terra. Avec quel type de personnes? Ceux qui auront entendu cette interview et qui vont dire « ouais, moi je veux vivre ». Vous-même, vos femmes, vos enfants à venir ou pas? Qui donc?
C'est déjà toutes les personnes qu'on a rencontrées lors de nos étapes, nos différentes étapes. Donc c'est pour ça aussi qu'on organise ces ciné-débats, ces ateliers constituants. C'est pour déjà sensibiliser les gens sur comment ils verraient leur vie dans un éco-village tel que Terra. On les invite tous à nous suivre par mail et sur notre site internet terrain.coop et à nous rejoindre le 25, 26, 27 octobre à Arvillard pour qu'on puisse tous ensemble réfléchir sur la première constitution de Terra. Et voilà, quoi, ce sera certainement ce genre de personnes qui participeront au premier éco-village, au premier éco-rameau.
Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de voir émerger à partir de cette base de données qu'on rassemble pendant les 3 ans, c'est une sorte de cahier des charges, le donner en libre service,
en open source,
pour pouvoir permettre...
Que ça puisse s'essaimer.
Voilà, que ça puisse s'essaimer à plusieurs endroits. C'est ça qui est important, à mon avis, si on veut... vraiment perdurer, parce que s'il est localisé à un endroit, on peut avoir des bâtons dans les roues qui vont... Parce que ben, forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. Et donc, si le phénomène il est vraiment généralisé, là, ça sera... C'est un peu comme le principe des gentivirus, c'est exactement ça.
Une sorte de révolution un petit peu,
oui, mais
par l'éco-village.
Lente.
Non, aucune révolution, non, juste des éco-villages.
Une évolution, alors, je rectifie, tiens.
Une transition, le terme est plus...
On aime beaucoup transition, ouais.
Mais c'est la même chose que Révolution, mais sans le R. Mais...
Les fameux habitants de Terra, c'est beaucoup de choses qui vont se décider justement au bout de 3 ans et quand tu auras un lieu de fixer, ça dépend beaucoup de tout ça. L'idée entre-temps, c'est vraiment de cristalliser de l'intelligence collective pour générer des propositions, des choses à tester, des templates, on va dire, pour utiliser un terme informatique, mais voilà, des designs. Ça peut prendre la forme de ça, c'est des petits kits à donner à des communes, des petits kits de bonnes idées très précises, pratiques, qui coûtent pas cher et qui sont rapidement mises en place et qui pourraient changer la vie. Le projet Terra, pour moi, c'est beaucoup ça. C'est un projet qui permettrait d'être générateur, de cristalliser l'intelligence collective pour générer des idées, des propositions, un laboratoire d'idées dans l'immédiat pendant ces 3 ans. Et puis après, ça va se poursuivre, mais se concentrer là-dessus, déjà sur ces 3 ans. Ouais.
Et tout le monde pourrait le reprendre.
Oui. Clairement.
Et juste au niveau du design, il y a vraiment une réflexion au niveau de la permaculture. Donc la permaculture dans le sens où on essaye de se baser sur un modèle le plus organique possible en observant la nature. Dans la permaculture, il n'y a pas de mauvaises herbes, par exemple. Il n'y a que des herbes dont on ne connaît pas encore les vertus. On est vraiment dans cette logique-là, dans la conception. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est au niveau de la gestion des déchets. Et voilà un peu ce qu'on essaie de développer au niveau de la mise en place de ces éco-hameaux connectés entre eux. Et des réflexions au niveau de la phytoépuration, au niveau du micro-élevage. On est vraiment dans une logique d'intégration plutôt que de séparation. Casser un peu le modèle intensif de l'expérience des longomailles pour arriver à quelque chose de plus intégré, finalement. C'est ça. Si on pouvait tous être un peu, avoir son potager, être un peu maraîcher, un peu musicien, un peu peintre, l'idée, c'est d'arriver progressivement à casser l'hyperspécialisation qui nous a un peu figé et qui nous a rendu impuissants dans nos sociétés. Et donc on va se servir de la spécialisation au départ, mais avec une réflexion au niveau du cadre et de l'environnement qu'on souhaite mettre en place, réussir progressivement à donner en tout cas la possibilité à tout un chacun d'être le plus polyvalent possible. Et pour ceux qui souhaitent s'épanouir dans un domaine particulier, parce qu'il en faut des fondus dans un domaine, il faut laisser le choix, mais en tout cas, que ceux qui souhaitent être le plus polyvalent possible le soient avec ce revenu de base et ces formations qui seront générées avec les kits dont parlait Jean-Baptiste.
Et si vous êtes dans le coin, c'est aussi, ça a été cité, parce que vous êtes passé à Saillant quand même.
Et puis a dit, vous êtes pas mal aussi.
Et puis a dit, c'est gentil. Alors qu'est-ce que vous êtes allé voir à Saillant ?
On est allé rencontrer Bruno, qui fait partie du Collège des Sages de Saillant. Et on a fait une petite interview parce qu'on essayait de faire des interviews vidéo ou audio.
Vous étiez les intervieweurs.
Oui, voilà, là c'est nous qui étions les intervieweurs. Et on essaie justement, pour les personnes qui nous suivent, de récolter un petit peu les bonnes pratiques, les bonnes initiatives, montrer qu'il faut arrêter d'écouter les vieux arbres tomber, écouter la forêt qui pousse parce que celle-là, elle ne fait pas de bruit. Et donc à Saillant, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire quand même sur le plan de la République et de la démocratie. Et donc on est allé voir notre ami Bruno et on a passé une heure avec lui pour essayer de mieux comprendre comment s'était formée cette force citoyenne nouvelle et comment ils avaient fait pour à la fois conquérir la mairie, reconquérir la mairie et en même temps comment ils font aujourd'hui, parce que maintenant qu'ils l'ont, il faut qu'ils traitent les problèmes. Et a priori c'était très très intéressant, ouais, très très intéressant. Et on a parlé des enjeux aussi de la commune pour les prochaines années et c'est formidable ce qui s'est passé à Saillant, ouais, c'est formidable.
Et on voit que c'est pas évident et qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire et que ce serait intéressant qu'il y ait des gens qui impulsent des idées dans ce type d'expérience pour justement après repartir avec des trucs plus concrets, plus concrets, costauds à proposer eux-mêmes dans leur propre commune, etc. Même s'ils ont pas trop, ils savent pas encore les appliquer dans leur commune, bah pourquoi pas les envoyer pour l'instant en test à Saillant, tu vois, des trucs comme ça.
Et là on dort ce soir, on dort chez Anne et Claude qui font partie de l'organisation de
Écologie au quotidien, qui a déjà reçu Étienne Chouard. J'ai failli vous couper tout à l'heure pour le dire, parce que qu'il est déjà passé sur ces rencontres Écologie au quotidien, un peu de pub. Je vais vous remercier tous les quatre d'être passés, en tout cas. Peut-être avant de vraiment se quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout un tas de coordonnées pour vous suivre, rentrer dans la base de données, rappeler le site internet, des numéros, tout ça?
Il y a tout d'abord principalement le site internet terra.coop, terra.coop, C2OP, et le site qui devrait changer d'ailleurs bientôt pour accueillir une plateforme plus complète, plus dynamique.
Mais l'adresse ne changera pas.
L'adresse ne changera pas. Ah. Le site va évoluer, mais l'adresse ne changera pas. pour s'inscrire à la mailing list, etc. Et le mail de Terra qui est contact@terra.coop.
Peut-être rajouter aussi la page Facebook aussi. On est beaucoup, ouais. On publie pas mal sur Facebook. On a beaucoup d'amis. Aussi, et sur le site aussi, la possibilité vous est donnée de nous aider de trois façons. Une première façon, c'est de nous dénoncer gentiment des entreprises, des associations, des collectivités qui pourraient nous aider à relocaliser la production et construire l'éco-village. Organiser aussi des assemblées constituantes dans votre ville, dans votre village. On peut se déplacer pour venir passer une journée avec vous et travailler sur la constitution d'un éco-village comme vous l'imagineriez.
Alors, ce message à l'Assemblée populaire du Diois, n'est-ce pas?
Pas de problème, avec un grand plaisir. Et puis, la troisième façon aussi, on est tous bénévoles et on a organisé ce tour et ce projet à travers des contributions citoyennes. Et vous pouvez nous aider financièrement, si vous le souhaitez, il y a un petit bouton. Sachant qu'on est adossé à un fonds de dotation qui s'appelle le fonds de dotation pour un développement humain, qui permet une défiscalisation à 66% des dons pour les particuliers et à 60% pour les entreprises.
D'intérêt général, donc.
Voilà.
Merci à tous les quatre. Je rappelle vos prénoms, Étienne, Jean-Baptiste, Antoine et Frédéric pour le projet Terra. Vous revenez donc quand vous voulez. Et puis moi, j'espère bien vous voir à Die pour une assemblée, justement.
Avec plaisir. Super.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci de nous avoir invités.
Interview. Ok, de bird.
L'interview du jour.